Bonsoir. L'accord signé entre le gouvernement de la RDC et la Namibie au sujet de la pêche dans les eaux namibiennes de 27 000 tonnes de poissons risque de ne plus être appliqué si jusqu'au 5 décembre prochain, la partie congolaise ne procède pas à la pêche. C'est environ 6 millions de dollars américains que la RDC a payé à la Namibie pour obtenir de sa part l'autorisation de pêcher dans les eaux namibiennes. Cette décision vise à inonder le marché congolais des poissons avec espoir que cela entraînerait la baisse des prix. On enregistre de plus en plus la hausse des prix des produits surgelés sur le marché de Kinshasa depuis que le gouvernement avait annoncé sa décision de faire baisser ses prix. Quelle lecture faire de cette situation? La décision d'aller pêcher dans les eaux namibiennes pourrait-elle constituer l'alternative par rapport aux difficultés du gouvernement congolais d'obtenir la baisse des prix des surgelés? Nous en parlons ce soir avec Al Kitenge, l'analyste économique et stratège. Al Kitenge, bonsoir.
Bonsoir madame.
Olive Moudekereza, député national élu de Walungo, Sud-Kivu. Il est ancien président de la FEC dans cette province et également opérateur économique. Olive Moudekereza, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et le professeur Emmanuel Mukundi, député national élu de Nyunzu dans la province de Tanganyika. Il est professeur à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Professeur Mukundi, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean-Claude Kalélébois. Ce gouvernement des Warriors, c'est un gouvernement qui de plus en plus n'inspire plus confiance. Il nous fait des promesses fallacieuses depuis qu'ils ont promis la baisse des prix des surgelés. Ils n'ont rien fait pour l'applicabilité de leurs mesures. Regan Mangwana, ce sont là les conséquences de prendre des décisions dans la précipitation. Depuis cette demande, qu'est-ce qui a changé? Alors que le prix a pris de l'ascenseur sur les marchés des produits surgelés. À Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé 85,7 millions de dollars namibiens, environ 5,8 millions de dollars américains, pour pêcher et acquérir 27 300 tonnes de poissons appelés chinchard. Indique le journal des Namibiennes. Objectif, permettre la réduction des prix des surgelés et stabiliser les prix des chinchards sur le marché congolais. Qu'en est-il de cet accord signé entre le gouvernement de la RDC et la Namibie? La réponse avec vous, Dona Madimba.
Acquérir les 27 000 tonnes de poissons chinchards achetés par la République démocratique du Congo pour être pêchés dans les eaux namibiennes est désormais un vrai défi du fait du délai pour la clôture de la saison de pêche en Namibie. La saison de pêche namibienne se clôture le 31 décembre selon la loi namibienne en la matière, ce qui laisse à la RDC tout au plus 2 mois pour le faire. Pour respecter les normes namibiennes, la République démocratique du Congo doit se conformer au plafond de 11 000 tonnes de chinchards le mois. La RDC a même déjà pris du retard pour commencer sa pêche en Namibie car le contrat avec ce pays prévoyait la période de cette pêche du 11 octobre au 31 décembre. Devant le défi que représente la pêche sur les eaux namibiennes d'une quantité de poissons aussi importante dans un délai aussi réduit, les experts soupçonnent le gouvernement namibien de vouloir laisser la RDC pêcher le reste l'année prochaine, ce qui est illégal. Il faut noter que la RDC est le plus grand marché pour le chinchard namibien et environ 90% des chinchards lui sont destinés. Avec les 27 000 tonnes de chinchards achetées directement à la Namibie, la RDC vise à stabiliser les prix des chinchards sur son marché local en attendant que le pays ne puisse développer son propre secteur de la pêche.
Merci Dona Madimba pour tous ces détails. Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. La RDC a payé près de 6 millions de dollars américains pour pêcher et acquérir 27 300 tonnes de poissons appelés chinchard. C'est là pour permettre de réduire les prix des surgelés sur le marché congolais. Jusqu'à ce jour, la pêche n'a pas encore commencé comme c'était prévu dans l'accord avec la Namibie. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, Kelly Nkouté.
Je crois qu'il faut d'abord expliquer aux Congolais de quoi il s'agit. Lorsque vous avez la licence pour pêcher dans les eaux namibiennes, vous n'allez pas vous-même pêcher. Vous allez donc vous appuyer sur des pêcheurs professionnels, ça veut dire des gens qui sont équipés de bateaux de pêche, pour être en mesure d'exercer les droits que vous avez achetés ou acquis. À partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est celle de la disponibilité des opérateurs économiques namibiens ou ayant des opérations dans les zones namibiennes pour être en mesure de pêcher. Et c'est là-bas que la planification n'a pas été aussi optimale qu'on l'aurait voulu. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que l'intention du gouvernement, c'est de jouer son rôle qui est celui de régulateur. Et on régule le prix de plusieurs manières. Soit on légifère, ce qui peut être perçu comme étant de la dictature, soit en ce moment-là, on joue un rôle d'opérateur économique intermittent pour être en mesure de pouvoir recréer les équilibres sur le marché. C'est dramatique qu'aujourd'hui, on continue à penser que c'est une question du gouvernement et des opérateurs économiques. Ce ne l'est pas. C'est une question des opérateurs économiques en grande partie, malheureusement, vers eux, avec les consommateurs dont ils abusent. Aujourd'hui, la situation est que la spéculation reprend. On pense punir le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement que l'on punit. On punit les acheteurs. Et c'est ça la réalité de notre pays. Il est important qu'à un moment donné ou à un autre, l'éthique s'invite dans les affaires afin que les Congolais aient l'information qu'il faut et qu'ils sachent le moment venu qui ils devraient punir. Qu'à cela ne tienne, mon point de vue reste le même. La vraie solution est dans la production locale, la pêche locale du poisson pour être en mesure d'inonder le marché avec des produits locaux.
Justement, c'est la question que beaucoup de Congolais se posent. Pourquoi aller dépenser beaucoup d'argent pour aller pêcher dans les zones namibiennes alors qu'on a beaucoup de lacs poissonneux en RDC?
Je crois que c'est une réaction de très court terme pour répondre aux besoins immédiats. La solution la plus logique, et on se poserait la question de savoir pourquoi on ne l'a pas fait les 30 dernières années, d'où, à mon avis, le respect total qu'il faut avoir pour l'actuel ministre qui ose prendre le courage de poser le problème sur la table. La solution à moyen et long terme, c'est celle de pêcher chez nous. Mais pour l'instant, nous n'avons pas les équipements, nous n'avons pas les entreprises qui pêchent. Donc, dans un premier temps, il résout d'aller obtenir du poisson dans les zones namibiennes pour être en mesure de résoudre rapidement le problème des équilibres sur le marché. Mais après, je pense, et le plus rapidement possible, il faut être en mesure de pêcher chez nous. C'est la chose la plus logique et la plus simple, et créer toute la chaîne de valeur du poisson chez nous.
Et maintenant que la situation semble bloquée du côté de la Namibie, est-ce que ce n'est pas le gouvernement, la RDC, qui perd finalement?
Il ne faut pas s'alarmer outre mesure. C'est vrai que les opérations ont pris du retard. Le gouvernement namibien et les organisations namibiennes ont tiré la sonnette d'alarme, mais les choses sont dans les règles. Ils vont devoir pêcher. Peut-être qu'ils peuvent ne pas être en mesure de pêcher toute la quantité nécessaire. Ça pourra être décalé pour être en mesure de ne pas créer un incident diplomatique. Vous l'avez si bien dit vous-même, nous sommes le plus grand marché des chinchards namibiens. Ils ne vont pas se permettre un impair pour 2-3 millions de dollars. Ils vont devoir savoir qu'il s'agit là d'un opérateur économique avec lequel, un opérateur institutionnel avec lequel on a des relations diplomatiques et économiques. Et je crois simplement que, oui, ce n'est pas le travail du ministre de s'occuper de ça tout le temps. Il n'en a pas nécessairement l'expérience personnelle. Il a de bonne foi pensé engager une opération qui devrait équilibrer la situation sur le marché. Et ça, c'est son travail. Et on peut d'ailleurs soupçonner quelques manipulations en back-office de la part d'un certain nombre d'opérateurs économiques, de par leurs différentes relations. Mais je crois simplement que nous devons être en mesure de tirer toutes les leçons de ce qui est en train de se passer et l'étendre dans les autres zones, en l'occurrence les autres produits.
Alors, on va ouvrir une petite parenthèse à Kitenge. Nous assistons à une polémique depuis quelques jours entre le ministère de l'économie et celui de l'agriculture, pêche et élevage. Ce dernier estime que c'est lui qui devait conclure cet accord avec la Namibie et non le ministre ou le ministère de l'économie.
Moi, je considère ça comme étant des discussions de palais qui n'ont aucun sens. Le gouvernement est un et unique. Le Premier ministre décide de qui prend l'initiative. Il faut savoir que le ministère de l'économie est un ministère transversal. qui travaille avec le transport, les infrastructures, la pêche et l'élevage et tous les autres secteurs. Je crois aussi que le travail du ministre de la Pêche et Élevage, c'est de dire il prend des initiatives et il les mène de bout en bout. Le plus grand travail du ministre de la Pêche et Élevage, c'est de pêcher chez nous et pas de s'occuper éventuellement des opérations commerciales à l'extérieur. Mais encore que ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le gouvernement ait une stratégie à court, moyen et long terme. La stratégie à court et long terme, c'est la stratégie de la production locale. Et je crois que au lieu que deux ministres se mettent à se discuter sur le fait que XY va signer un contrat à gauche à droite, l'unicité du gouvernement et la solidarité gouvernementale imposent que on soit en mesure de se taire lorsqu'il s'agit de divergences.
On enregistre de plus en plus la hausse des prix des produits surgelés sur le marché de Kinshasa depuis que le gouvernement avait annoncé sa décision de faire baisser ses prix. Où est-ce qu'on en est à ce jour à Kitenge?
Mais en fait, l'augmentation du prix et le fait de la loi de l'offre et de la demande, en fait aujourd'hui, la spéculation est liée au simple fait que les opérateurs économiques voudraient discréditer le ministère et démontrer clairement qu'il n'est pas en mesure de faire son travail. Mais en fait, c'est une petite victoire, mais elle n'est pas durable. Je pense qu'une des choses extrêmement importantes lorsqu'on fait des affaires dans un pays, c'est de respecter les lois et les autorités du pays. Je pense qu'il y a une importance capitale pour permettre à chacun de faire son rôle et de jouer son rôle, qu'une relation sérieuse, équitable et honnête s'établisse entre les opérateurs économiques et le pouvoir. Je vous le dis et je vous l'ai déjà dit à l'avance, c'est que le monopole de la brutalité légale est entre les mains de l'État. À n'importe quel moment, on peut même vous enlever votre registre de registre du commerce extérieur immobilier. Ça peut vous permettre de stopper vos activités. Vous pouvez être un très bon opérateur, vous avez beaucoup d'argent, vous faites des choses qui marchent. Et puis un jour, l'État vous déclare illégal. Vous allez perdre l'ensemble de votre activité et de votre portefeuille. Et je crois qu'il est important que dans toute sincérité, lorsque des négociations se passent entre les opérateurs économiques et l'État congolais, que les gens respectent le reste. Derrière ça, je pense qu'il y a une opportunité pour l'État congolais de recréer les véritables écosystèmes de distribution des biens locaux et importés. Et aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que tout se passe dans l'informel, et bien sûr, quand commence la spéculation, on n'est même pas en mesure de savoir où est-ce qu'elle commence et qui la commence.
Merci à le Kitenge, Olive Moutekereza, vous êtes député national élu de Walungu au Sud Kivu, ancien président de la FEC dans cette province, également opérateur économique. Comment vous analysez cette situation?
J'analyse cette situation, je dirais d'ailleurs tout de suite, on vient de l'Assemblée nationale parler de l'entrepreneuriat des PME congolais. Je peux vous dire, madame, les 6 millions qu'on a donnés à Namibie, on aurait dû donner 600 000, madame, au Sud Kivu, on vous produirait des poissons dans nos états piscicoles, dans la pêche sur le lac Tanganyika. Il y a la pêche dans les cages sur le lac Kivu. On aurait produit un dixième de cette quantité voulue. Mais j'encourage le gouvernement de continuer les négociations et je suis tout à fait d'accord avec Ali Kiteng, comme il a dit. Le gouvernement reste le régulateur des choses partout au monde. Si on aurait dû importer cette quantité de 27 000 tonnes, ça allait régler le prix et on allait savoir avec des magasins témoins ici à Kinshasa et peut-être dans quelques provinces. Mais je vous assure, pour à long terme, il faut envisager à produire localement et consommer localement. J'ai la lettre ici, madame, du ministre de Pêche, et j'ai adressé ma lettre pour proposer à donner des enlevés à l'est de la RDC et nous étions sûrs de produire et vendre au moins environ $2 le kilo, ou moins à moins de $1. Moi-même qui vous parle, j'ai pris une dizaine des états piscicoles et j'ai produit des poissons de tilapia et de clarias. Le plus grand clarias que j'ai produit, c'est de 10 kilos et j'ai vendu à 20 000 francs. Donc, il est possible de financer les producteurs locaux et aussi créer des opérateurs congolais, favoriser les PME congolais. Et si même un jour le ministre aurait dit voyager avec les PME congolais en Namibie, on n'aurait pas rencontré tous ces problèmes. Je crois que le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour investir dans la production nationale. Et ça va lui garantir la production locale. Nous avons la capacité sur la production agricole pour les vivres, c'est pas seulement les poissons. Il y a moyen de les faire. Mais, vous savez, les opérateurs ne sont pas les enfants des cœurs. Mais, je crois que les opérateurs, aussi comme nous, nous devons travailler avec le gouvernement, parce que le gouvernement, comme a dit Kitenge, il peut nous retirer la licence d'importation et nous pouvons regretter à la fin. Donc, il y a moyen de gagner paix, mais accompagner la population. Surtout maintenant, nous irons vers le fin d'année, Inch'Allah, je ne sais pas comment on fera, mais je peux vous dire qu'à Bukavu aujourd'hui, nous produisons des poissons dans les lacs Kivu, dans les états fiscaux, et aussi dans les lacs Kivu, et une partie vient des lacs Tanganyika, mais il faut moderniser, il faut améliorer, il faut renforcer. Je crois que le gouvernement a intérêt aujourd'hui de s'investir localement et les opérateurs congolais et que les PME deviennent demain des industriels pour lui garantir l'approvisionnement des produits vivriers.
Olive Moudekérez, à investir dans la production locale, c'est la solution selon vous la plus efficace et plus durable, mais néanmoins vous êtes d'accord qu'à court terme cette décision d'aller pêcher dans les zones namibiennes pourrait constituer l'alternative par rapport aux difficultés du gouvernement d'obtenir la baisse des prix des sœurs gelées?
Oui, c'était une bonne chose. Je crois que même si le gouvernement était parti avec les opérateurs en Namibie, je ne vois pas pourquoi les opérateurs ont pu encore faire l'obstacle, parce que le gouvernement avait promis qu'il est possible d'avoir à moins cher et vendre à moins cher en diminuant certaines taxes pour permettre à ces opérateurs de vendre à moins prix. Si on aurait dû associer les opérateurs congolais, moi j'aurais dû être parmi, je pouvais les accompagner et dire il est possible, parce que tous les gouvernements du monde donnent toujours des marges à l'opérateur économique. Vous voyez, avec les compagnies aériennes, ils discutaient, aujourd'hui ils sont d'accord, et ça donne de bons résultats. Moi j'habite à l'Est, tous les jours les avions sont pleins, et je les ai même dit, si le gouvernement assiste, on a des bons aéroports, on a des bonnes infrastructures de base, on peut même arriver à avoir des billets de $50. J'en ai des billets d'avion payés Bruxelles jusqu'à Riga en Norvège, 2000 km, $50. Donc, l'État peut accompagner les opérateurs économiques et les opérateurs économiques peuvent négocier avec le gouvernement, arriver à avoir des prix raisonnables, parce que nous travaillons tous pour l'intérêt de la population.
On vous accuse, vos opérateurs économiques, de vouloir discréditer le gouvernement.
Moi, je ne crois pas que quand même les opérateurs honnêtes qui veulent faire des affaires avec les grands pays comme le Congo abusent à cette manière-là. Je crois qu'il faut peut-être encore renouer les négociations pour arriver à de bons résultats. Et il est possible, parce que tous ces pays limitrophes de la RDC, c'est que le Congo, c'est un grand marché. Mais nous disons, et je reviens sur la question de dire, il faut que les Congolais s'investissent et il faut que les Congolais soient soutenus pour en avoir des vrais et réels opérateurs congolais qui ont intérêt de leur pays.
Professeur Emmanuel Mukundi, député national, élu de Nyunzu dans la province du Tanganyika, vous êtes professeur à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa, professeur, 6 millions de dollars environ pour pêcher et acquérir 27 300 tonnes de poissons appelés chinchards. C'est là pour permettre la réduction des prix des surgelés et stabiliser les prix des chinchards sur les marchés congolais. Quel est votre lecture?
Merci beaucoup, madame, de m'avoir associé à cette réflexion scientifique pour le besoin de notre peuple. Mais bien avant cela, je commence par remercier ou saluer mes co-débatteurs, monsieur Ali, et mon collègue Olivier, avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais au commerce. Madame, moi je vais répondre comme disait Platon, le rôle d'un intellectuel ou d'un philosophe est celui d'éclairer sa nation. Moi je vais éclairer la nation, alors chacun va trouver sa part. Il y a un problème. Lorsque j'entends les analyses précédentes, on dit que le gouvernement a pris une mesure provisoire en attendant prendre une mesure définitive. C'est déjà un problème. Quel a été le problème au départ? Parce que les mesures du gouvernement, particulièrement les mesures économiques, ça fait partie des politiques économiques. Or, les politiques économiques viennent résoudre un problème. Quel a été le problème que le gouvernement a analysé pour pouvoir prendre des mesures provisoires afin, in fine, de prendre des mesures définitives? Ça, c'est le premier problème. À mon sens, le problème de prix des biens de première nécessité, c'est un problème structurel. Et comme c'est un problème structurel, il n'y avait pas un problème là d'urgence pour prendre une mesure urgente ou une mesure provisoire. Il fallait d'abord commencer par faire un diagnostic, faire le diagnostic, découvrir quel est le vrai problème et quelles sont les pistes et solutions qu'on doit découvrir.
Je pense que cela a été fait. J'ai
pu comprendre que le gouvernement, pour un problème structurel, a pris des mesures conjoncturelles. C'est clair, il doit être bloqué quelque part, en ce sens que on vous dit vous devez pêcher dans la marge d'octobre jusqu'au mois de décembre, alors que vous n'avez pas bien fait le diagnostic, vous allez être en retard, vous allez avoir le problème avec la législation namibienne. Madame, les principes économiques ou les lois économiques sont à respecter. Si on ne sait pas respecter les lois économiques, on va se fourvoyer. On va prendre des mesures actives et puis on va se compliquer pour rien. On dit que la vie est difficile.
Professeur, lorsque vous parlez de diagnostic, vous faites allusion à quoi exactement?
Quel a été le problème? Parce que c'est là que je veux venir, madame. Vous voulez prendre une mesure économique, il faut d'abord chercher à savoir quel a été le problème. Quand le gouvernement a pris cette mesure, quel a été le problème? Est-ce qu'il y avait rareté? Est-ce qu'il y avait un problème de prix? Est-ce qu'il y avait un problème de l'offre et de la demande? Moi, j'ai pu constater que le gouvernement n'a pas fait un bon diagnostic pour savoir quel a été le problème, d'autant plus que j'ai suivi, commençant par le gouvernement lui-même et les autres analystes, ils disent que les mesures qui ont été prises, ce sont les mesures provisoires, en attendant qu'on ait pris des mesures définitives. Déjà, moi je comprends que l'analyse ou le diagnostic était faux, parce que le problème de prix ou le problème de structure de prix des produits de première nécessité, c'est un problème structurel. Comme c'est un problème structurel, il faut d'abord faire les analyses afin de proposer des solutions structurelles. Mais le gouvernement a pris, n'est-ce pas, des mesures qui sont conjoncturelles. C'est pourquoi, madame, moi je voulais éclairer quand même la nation en disant ceci. L'économie a ses propres lois et ces lois-là, on doit les respecter. En ce qui concerne les prix, par exemple, pour pouvoir prendre une mesure qui consiste à baisser les prix, il faut se poser la question. Est-ce que la baisse ou la hausse des prix est-elle due à la loi de l'offre et de la demande? Si c'est la loi de l'offre et de la demande, il y a des problèmes. Le premier problème, c'est soit l'offre qui a baissé, le deuxième, c'est soit la demande qui a augmenté. Est-ce que le gouvernement s'est posé la question si c'était un problème de l'offre ou un problème de la demande? Si c'est un problème de l'offre, c'est un problème structurel, on ne peut pas le faire en un jour. Il fallait faire les analyses pour rejoindre l'idée de mon collègue député national qui vous dit, attendez, si vous voulez accroître la production, il y a deux champs, il y a des domaines en République démocratique du Congo où on peut produire localement le poisson. Et moi, je vous donne l'exemple, au moment où je vous parle, je suis dans mon territoire de Nyunzu, où je mange les tilapia qui sont pêchés dans un état qu'on appelle ici chez nous l'Ipanda. Dans cet état, il n'y avait pas de tilapia, mais il y a une ONG qui a jeté les semences, et aujourd'hui, une année après, deux ans après, nous consommons le poisson. Alors, si le problème n'est pas d'offre, c'est un problème de la demande, la solution à donner, c'est une solution structurelle, ce n'est pas une solution conjoncturelle. Deuxièmement, si le problème c'était un problème de la spéculation des opérateurs économiques, madame, la spéculation s'arrête par la production. Le gouvernement devait prendre des mesures pour produire localement afin d'arrêter définitivement la spéculation. Pourquoi? Parce que chaque fois que le gouvernement prend une mesure, les opérateurs économiques anticipent ce qu'ils vont faire. Le gouvernement s'est dit, ok, je me fie de vous les importateurs, je me fie de la production nationale, moi je vais aller produire en Namibie. Mais il y a des anticipations, les opérateurs économiques ont réfléchi comment intercaler ces mesures du gouvernement. S'ils l'ont fait, ils l'ont fait de toute rationalité. Troisième chose, est-ce que c'est un problème de recherche des gains exorbitants pour les opérateurs économiques? C'est seulement en ces cas-là que le gouvernement devait prendre une mesure qui touche, n'est-ce pas, les structures de prix, voir dans quel secteur les structures de prix où les prix ont augmenté pour chercher s'il s'agit de la recherche des gains exagérés. En ce moment-là, le gouvernement devait collaborer avec les opérateurs parce que, madame, entre parenthèses, c'est depuis des années que nous avons quitté l'économie des fouets. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie où le gouvernement doit considérer l'opérateur économique comme un partenaire. Le gouvernement doit considérer les ménages ou les consommateurs comme des partenaires. Et donc, le gouvernement ne peut pas se lever du jour au lendemain comme ça, sans se mettre d'accord avec les opérateurs économiques pour prendre une mesure, alors que cette mesure, moi je vous l'ai dit théoriquement, les opérateurs économiques devaient faire tout pour pouvoir bloquer. Quatrième chose, Est-ce que la, le problème de prix, c'était lié aux mauvaises politiques du gouvernement? Ici, particulièrement, je pense aux politiques fiscales. Si c'était un problème de la charge fiscale en ce qui concerne la structure des prix de commerçants de biens de première nécessité, dans cette hypothèse, la seule chose qui reste, ce sont des mesures incitatives. Mais alors, sauter toutes ces étapes-là pour aller directement choisir aller produire à Namibie, j'ai trouvé que c'est une mesure qui n'a pas été bien préparée. Pourquoi? Mon collègue qui m'a précédé, Olivier, l'a dit, lorsque vous lui avez posé la question, il y a un conflit des compétences entre les ministres sectoriels et les ministres de régulation. C'est déjà un problème, parce que les ministres de régulation, ici le cas échéant, c'est le ministre de l'économie, il n'a pas assez de maîtrise en ce qui concerne la production. Pourquoi? Parce que dans un domaine précis, les données qu'il utilise, ce sont les données qui viennent du ministre sectoriel, qui lui dit voilà, avec beaucoup de technicité. D'autant plus qu'au ministère de l'économie, il y a des régulateurs, des spécialistes en régulation, il n'y a pas de spécialistes en production d'un tel produit. Le ministre de l'économie régule les prix lorsque le prix est déjà sur le marché, comme je le dis dans le cas de la structure des prix. Le ministre de l'économie régule la distribution. Quant à la production, ce n'est pas un problème du ministre de l'économie. Déjà là, c'est une confusion, madame. Ça veut dire que l'étude n'a pas été bien faite.
Alors, professeur...
Madame, je voudrais terminer par là. Lorsqu'il s'agit de négocier sur le plan international, le ministre de l'économie ne connaît de rien, il ne connaît de rien les stratégies de négociation sur le plan commercial. Il s'agit là du ministre du commerce qui connaît comment on peut négocier. Alors, lui, bon, c'est un ministre des régulations internes. Il va prendre d'abord le secteur de production interne, il s'y implique sans savoir par où commencer ou par où terminer, ou comme on l'a dit, c'est par bonne foi, une mauvaise foi, qui est traduit par la bonne foi, et si c'est pour aller vers l'extérieur, ce n'était pas lui, moi je pense qu'il aurait dû collaborer avec son collègue.
Je pense qu'il collabore avec le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussard. Alors, professeur, vous dites que la mesure n'a pas été bien préparée, mais est-ce que ce n'est pas finalement, comme l'a dit à Kitenge, nous parlons du court terme, hein, ce n'est pas une alternative par rapport aux difficultés du gouvernement d'obtenir la baisse des prix de surgelés?
Mais vous savez, madame, vous pouvez prendre, je suis professeur de politique économique, vous pouvez prendre une mesure de politique économique qui vous cause vous-même du tort. C'est le cas échéant. Pourquoi, madame? En tout cas, jusque-là sur le marché, il n'y avait pas une forte tension, une forte pression sur le prix pour que le gouvernement se réveille, je prends une mesure provisoire. Non. Moi, je pense, s'il y avait besoin de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer les pouvoirs d'achat de la population en ce qui concerne les produits de première nécessité, le gouvernement devait commencer par faire les analyses que je viens de faire, madame. Pourquoi? Parce que en prenant une telle mesure, bon, nous baissons le prix. Vous baissez le prix en fonction de quoi? Vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez compenser cette offre-là. Parce que si vous baissez le prix, ok, il y aura une grande demande. Et lorsqu'il y a une grande demande, comment vous allez compenser ce déséquilibre entre l'offre et la demande? Oui, bon, au Congo, on ne peut pas produire, nous allons en Namibie. Oui, en Namibie, il y a une réglementation. Et cette réglementation vous dit, d'ici décembre, on ne pêche pas. Mais puisque vous n'avez pas préparé, vous êtes bloqué. Et voyez-vous, voilà pourquoi nous disons, nous, que le gouvernement s'est fourvoyé à prendre, le ministre particulièrement de l'économie, s'est fourvoyé de prendre une mesure sans savoir les conséquences. Madame,
merci.
Le prix dont vous voyez...
Professeur, on va vous redonner la parole, sauf pour nous de prendre ces auditeurs qui sont très très nombreux à vouloir intervenir aussi. Ils sont nombreux à appeler sur notre standard Al-Kitenge. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Patrice Moubera Koulimou, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. L'opinion congolaise n'a plus confiance en ce genre d'accord, convention et engagement que la RDC signe avec des pays étrangers. Car nous sommes en train de remarquer que ce genre d'accord ne sont signés que dans le souci de faire plaire au peuple congolais qui ne cesse de croupir dans la misère. Ailleurs, ce genre d'acte montre que l'État congolais n'a pas la volonté de pouvoir exploiter et utiliser le potentiel des ressources disponibles sur le sol congolais. Sinon, la RDC n'avait pas besoin d'aller signer de tels accords qui ont pu gaspiller des millions de dollars au moment où nous possédons nos propres lacs rivières et beaucoup d'espaces capables d'être transformés en étang piscicole afin de nourrir plus d'un Congolais.
Alkitenge.
Merci beaucoup pour cette question de Patrice de Bukavu. La seule chose qu'il doit savoir, c'est que les devises qui sortaient depuis de longues années pour importer des biens. Ce n'est pas le ministre qui a décidé d'importer comme étant un premier importateur. Donc les opérateurs économiques qui ont toujours importé ont toujours pris des devises de la République pour les amener à l'extérieur, pour ramener ici du poisson. Le mérite aujourd'hui de la décision du ministre, c'est de montrer deux choses. La première, c'est qu'il y a une très grosse spéculation complètement inutile et non éthique dans la structure des prix qui est imposée sur le marché et dans l'évolution du prix sur le marché quinois. En fait, moi je comprends bien notre professeur d'économie qui parle de news. En fait, il est trop loin physiquement et peut-être qu'il ne s'intéresse pas au marché de Kinshasa. Les réalités auxquelles le gouvernement essaie de donner une réponse, c'est des réalités quinoises. J'ai l'impression qu'il ne les comprend pas du tout.
Il est député national, ça veut dire qu'il passe plus de temps à Kinshasa et il rentre...
Oui, mais j'ai l'impression qu'il ne comprend absolument pas du tout ce qui est en train de se passer ici. Nous étions dans une guerre de prix qui était basée sur de la spéculation, qui était appuyée par un discrédit politique d'un certain nombre de personnes qui étaient manipulées. C'est à ça que répondait le gouvernement. Mais on met ça de côté. Pour répondre à Patrice, quand on prend une décision, elle se met en place progressivement. Un, si nous désirons faire de la production industrielle de poissons chez nous, il faut acheter du matériel, il faut former des gens, il faut créer l'écosystème de stockage de la logistique nécessaire. C'est à ça que le gouvernement est en train de s'appliquer pour l'instant. Ça va arriver. Et entre deux, le gouvernement a décidé d'importer pour être en mesure de répondre à l'urgence, et l'urgence était et est encore aujourd'hui cette spéculation sur les prix que l'on a, qui est en fait devenue une guerre non pas économique mais politique. Et tout le monde comprend ce qu'il y a dedans et ce que font les gens et qui sont ces personnes qui agissent. Tout le monde le sait. Nous n'allons pas être hypocrites avec nous-mêmes, il faut être sérieux, il faut savoir simplement que nous sommes un pays dont l'économie est entièrement entre les mains des étrangers. Et ces étrangers ont des accointances politiques qui, malheureusement, ont un impact sur la manière dont on maltraite la population. Et il faut avoir le courage de le dire.
Olive Moudé-Kereza, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Likasi, dans la province du Haut-Katanga.
Serge Chibangou, j'appelle depuis la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Il est décevant, car on s'attendait à un contrat illustre pour le bien-être du peuple congolais. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous réalisons que ce contrat n'était pas signé selon un bon sens de partenariat, raison pour laquelle la partie namibienne n'autorise pas la pêche au profil de la partie congolaise. Il revient au gouvernement de revoir les 10 contrats et de prendre des mesures idoines pour s'en sortir. Chose grave, la propagande fut énorme dans la population de l'arrivée des poissons de la Namibie et surtout nos amis de l'UDPS Parlement Debout. Je ne sais pas qu'ils diront encore au peuple en ce moment de résistance.
Oliver Moudé-Kereza, plus brève réaction par rapport au point de vue de Serge Chibangou.
Oui, Serge dit oui, c'est vrai. Il faut que le gouvernement peut-être fasse encore beaucoup d'efforts pour renégocier avec la Namibie. Ce sont des partenaires. Et je crois que ce qu'a dit Alexis Tengue, vous savez, l'économie est à 80% dans les mains des étrangers. Je me souviens qu'en 1996, à l'avenir de l'AFDEL, tous les étrangers qui étaient dans le secteur pétrolier à l'époque, tout l'Est, à commencer par Lubumbashi, Nord Kivu, Sud Kivu, avait refusé de vendre le carburant aux rebelles, pas des rebelles à l'époque. Et ce sont les Congolais qui ont pu sauver la situation, parce qu'ils ont fermé les stations, les chaînes, les mobiles, tout comme ça. Et aujourd'hui, si, c'est vrai que toute l'importation des poissons sont dans les mers étrangers, c'est dangereux. Il faut créer une classe moyenne congolaise qui pourra aider le gouvernement congolais. Mais en attendant, il faut aller dans ces négociations pour trouver des produits à alimenter la ville de Kinshasa. D'ici décembre, s'il n'y a pas d'approvisionnement à Kinshasa, ça ne sera pas facile. Donc, je tiens aussi à dire, chaque fois, même la production locale qu'on fera, on n'est pas encore capable d'approvisionner totalement tous les pays. Mais il faut aller progressivement. Et la différence peut être importée. Et l'importation, je crois que les gouvernements doivent continuer à négocier avec les opérateurs économiques, voir les liens d'approvisionnement, ça revient à quel coût, est-ce qu'il faut diminuer telle taxe pour que la population arrive à avoir des produits à moindre coût. Je peux vous dire, les gouvernements peuvent faire beaucoup de choses. Il y a vu les cas de Kanyamakasese. On produit maintenant le maïs, on le vend à 9 dollars ici. J'ai dit même qu'il faut que ces jeunes gens les transforment en opérateurs économiques d'ici quelques années. Il y a beaucoup d'espace pour cultiver le maïs. Donc pour les poissons, à l'intérieur, même dans les fleuves ici, dans les lacs Kivu, dans Nganyika, d'autres lacs, on sait produire. Mais je sais que pour avoir les équipements, ça prendra des temps. Il y a aussi les états fiscaux. J'ai dit, on les fait au Kivu presque partout. On peut produire la partie de cette commande-là. Et une fois, les 6 millions, on l'investit dans la production locale. Je suis sûr que d'ici 2023-2025, on sait avoir la moitié de cette production.
Merci.
Mais en attendant, continuons à négocier. Les opérateurs économiques sont faciles à comprendre. Il y a moyen de ramener à la raison et avoir l'approvisionnement de la capitale de Kinshasa et les grandes villes de la République.
Professeur Emmanuel Mukundi, on a aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Maître Serge Mousserano de Goma, au Nord Kivu. Je crois que cela constitue une mauvaise affaire de la part du gouvernement congolais, qui non seulement possède des potentialités énormes en termes de lacs contenant des milliers de poissons à travers pratiquement tous les pays. Cependant, ces lacs ne sont tout simplement pas valorisés parce que l'État n'y accorde pas une attention nécessaire à travers ses services spécialisés pour une pêche non seulement productive et rentable, mais aussi organisée et capable de nourrir ses citoyens. Sinon, se concentrer sur la pêche dans un pays étranger ne défavoriserait-il pas davantage le développement de la pêche en RDC? Quelles mesures auraient été prises par l'État pour que même à pêcher à l'étranger, le système de pêcherie en RDC ne puisse pas continuer de sombrer dans la défaillance la plus totale? L'État congolais devrait plutôt songer à comment doter son système de pêche d'une technologie, à même de le rendre moderne, et aussi mettre en application stricte les normes interdisant la pêche des frétins pour éviter une quelconque carence dans les temps à venir. Sinon, aller chercher à pêcher dans un pays étranger pour nourrir les Congolais n'est pas digne de la RDC.
Professeur Mukundi, réaction.
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que mon ami Ali a compris que c'est lui qui ne connaît pas la réalité. Parce que s'il a écouté tous les intervenants et que ce sont les gens, il se cramponne dans son Kinshasa natal et qu'il ne sait pas ce qui se passe partout ailleurs. C'est lui qui m'a posé la question, il est à Goma, c'est un lacquiste. Mon collègue Olivier, il est de Bukavu, c'est un lacquiste. Et moi-même, je suis du lac Tanganyika, je suis lacquiste. Nous savons de quoi nous parlons et nous parlons dans la réalité. Madame, je voulais dire à Olivier, à Ali, qu'il n'y avait pas problème de spéculation. Moi, je suis venu ici à Nyunzu il y a une semaine, je viens de Kinshasa. Et lorsque le gouvernement a pris cette mesure, nous l'avons analysée avec les étudiants dans nos auditoires qui me suivent. Le gouvernement est parti de l'hypothèse que, en 1990, la rame de Thomson valait 10 dollars, ce qui fait que les cartons, c'était 30 dollars. Mais pourquoi aujourd'hui, en 2021, c'est 90 dollars? Et donc, il est possible de pouvoir ramener la rame à 10 dollars. Voilà, il n'y avait pas de spéculation. Je lui apprends que la spéculation, c'est lorsque les opérateurs économiques cache la marchandise afin de créer la rareté et augmenter le prix in fine. Il n'y avait pas ça. Le gouvernement est parti d'une analyse comparative biaisée. Les années 90, la réalité structurelle de cette période était autre et aujourd'hui les réalités structurelles sont tout autres. Qu'à cela ne tienne, si nous disons à Olivier que les diagnostics étaient faux, c'est réel. Parce que il y a quelques années de cela, au Kasaï, Pepe Kale chantait que chez nous, il y a l'Endakala. Mais au Kasaï, il n'y a pas un lac. C'est les lacs Tanganyika qui produisaient l'Endakala qui sont vendus partout en République démocratique du Congo. De deux, madame, si on prenait, comme disent les autres, Olivier et tous les autres auditeurs,
si l'on prenait les 6 millions qu'on mettait dans les lacs Tanganyika en valorisant la production semi-industrielle qui s'est réalisée dans ces lacs-là, madame, il y a moyen de pouvoir ne plus importer de Thomson. Parce que le poisson Mikebo qu'on produit dans les lacs Tanganyika sont mieux que le Thomson qu'on importe. Si on prenait cette même monnaie qu'on jetait dans le lac Édouard, dans le nord, on produirait beaucoup de poissons qui viendraient par des mécanismes que le gouvernement pouvait préparer, par exemple en créant des camions frigorifiques. Le privé Katebe Katoto les faisait dans les années 2000, il les faisait. Donc le gouvernement pouvait créer le camion frigorifique pour permettre à ce que les poissons arrivent à Kisangani et de Kisangani par bateau arrivent à Kinshasa. Donc monsieur Ali, vous ne connaissez pas la réalité, donc il n'y a pas un problème de spéculation.
Merci.
C'est un problème de mesures qui sont prises à la hâte, à la va-vite.
Merci.
Pour montrer à la population que nous savons prendre des mesures. Pourtant, en économie, messieurs, on n'est pas dans l'économie des fouets. Nous sommes dans l'économie des négociations. C'est pourquoi Moudekereza et moi j'étais au commerce extérieur, il sait de quoi nous parlons. Nous négocions toujours avec les commerçants. En matière de café, en matière de quinquennat, en matière d'autres choses. C'est un échec pour le gouvernement pour faire souffrir la population. C'est ce qu'on doit
dire. Merci, professeur. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors, Kitenge, ça sera votre conclusion. Quelle est la solution aujourd'hui pour arriver à faire baisser les prix des surgelés sur les marchés congolais?
Les prix de surgelés baisseront lorsque l'offre sera supérieure à la demande. Et c'est à ça que le gouvernement travaille pour, de manière artificielle pendant un temps, être en mesure de jouer un rôle de régulateur des stocks. Et ça va arriver, ça prend un peu de temps, mais ça va arriver de toute façon. La deuxième des choses, c'est le changement de stratégie. Il est possible que nous créions ce qu'on appelle des centrales d'achat pour être en mesure d'éviter toutes les spéculations sur les prix et toute la fraude sur les prix. La troisième des choses, et elle est tout aussi importante, c'est qu'il est important d'investir localement dans la production et la logistique de distribution pour que l'économie congolaise soit alimentée par la consommation congolaise. Et la dernière des choses que je voudrais dire, c'est que on peut ne pas aimer un gouvernement, on peut ne pas aimer un ministre, mais cela ne vous donne pas le droit de dire des choses qui ne sont pas scientifiquement viables. Il faut savoir que la réalité économique nous rattrape, et la seule chose qui nous reste tout à fait incompressible, c'est le temps. Dans un mois, dans deux mois, refaites ce débat, vous allez vous rendre compte de ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Merci Alain Kitenge, Olivier Moudekereza, vous avez aussi 40 secondes pour conclure. Qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Mon dernier mot, c'est-à-dire, j'encourage le ministère de l'entrepreneuriat qu'on vient de libérer tout de suite au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis d'accord avec les centrales d'achat et je vous dis, aujourd'hui avec les opérateurs économiques du Sud qui vous le paient, mais nous sommes en train de réfléchir comment même alimenter la capitale à Kinshasa en produits locaux. Et ici je vous dis que nous vendons les poissons qu'on en parle ici, le Thomson et autres, à 18 dollars les cartons à Bukavu, 20 dollars qui sont importés par les femmes congolaises. Il y a moyen d'impliquer les Congolais dans l'économie et vous verrez que la RDC aura la stabilité.
Merci Olivier Moudekereza. Professeur Emmanuel Mukundi, votre conclusion?
Très rapidement, madame, le gouvernement doit cesser de prendre des mesures qui ont un caractère préélectoral, mais plutôt prendre des mesures qui ont un caractère post-électoral. Parce qu'en période préélectorale, on peut prendre des mesures pour monter à la population que j'ai baissé les prix. Mais en période post-électorale, il faut prendre des mesures structurelles, des mesures qui durent. Et ces mesures, Moudekereza l'a dit, il faut rentrer dans la production locale. Quand le collègue Ali parlait de l'offre et la demande, c'est la production locale, ce n'est pas l'importation des produits en Namibie. Et
merci.
Donc, pour moi, le gouvernement, le ministre de l'économie doit se décharger de cette question pour laisser les ministères sectoriels s'en occuper d'une très bonne manière. En ce qui concerne les négociations, qu'il laisse le ministre du Commerce les faire. Il n'en maîtrise pas.
Merci.
Voilà ma conclusion.
Merci professeur Emmanuel Mukundi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Martin Semoujangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Paul Badianiaba. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.